RMC.
Inbound the card right to Jordan. Time winding down. Michael for three. Yeah! Yeah! Yeah!
Basket time.
Final seconds. Bryant for the win.
Pierre Dorian.
Basket Time, votre rendez-vous basket du mardi sur rmc.fr. La Dream Team du jour, Fred Weiss, Stephen Brun, Kylian Verov. Bonjour messieurs.
Salut Pierre.
Bonjour. Salut à tous.
Trois grands noms du basket. Brun, Weiss, Verov. Bon, le problème c'est que c'est pas le bon Verov.
Non, c'est pas le pas pro, grave, mais bon, hein. Je suis là quand même.
Il fait son petit bonhomme de chemin, Kylian. Il petit à petit prend la place dans ce podcast. C'est vrai, hein. Non, vous voulez pas le saucer.
Je les ai laissés parler.
Il y avait pas de saucer. Il va mettre en
confiance. Moi, je j'écoute le coach, moi.
Vous êtes pas des bons coéquipiers là.
Non.
Là, c'est un rookie, il faut l'encourager.
Non,
parce que, là, il est en train de prendre le rookie wall.
En plein dedans. Paf.
Alors, nous allons parler. Attention, c'est un spécial Zachary Risacher aujourd'hui dans Basket Time. Pourquoi un spécial Zachary Risacher? Parce que plus on s'en rapproche, et plus il semble qu'il soit le numéro 1 de la prochaine draft, ce qui serait complètement surréaliste. Parce qu'autant Wembanyama, bon, il n'y avait pas photo, il n'y avait pas de débat, et c'est tout à fait normal. Autant un joueur de Bourg-en-Bresse, numéro 1 de la draft, ça, on ne s'y attendait pas quand même, Fred.
T'es dur. Pourquoi Bourg-en-Bresse déjà avec ce
tour-là, ça va plus la peine.
Ouais, c'est, voilà. C'est une balle perdue pour Bourg-en-Bresse.
Non, mais Wembanyama, c'est un joueur à part.
Non, mais il est allé au Mets, regarde ce qu'ils sont en train de faire cette année, les Mets aussi. Donc concrètement, sur le papier, oui, je le trouve un peu dur.
Mais c'est, bon. c'est pas la même draft que l'année dernière.
C'est ça, en plus.
Exactement, c'est ça qui est intéressant, justement. Stephen n'a pas encore démarré le podcast, hein, vous avez remarqué.
Il a perdu sa langue.
Il se demande à quel moment il va envoyer un scud gratuit et surtout à qui. Bon, pour l'instant, il n'a pas choisi. Voici les thèmes du jour. Zachary Risacher va-t-il lui aussi conquérir la NBA? Et ensuite, cette génération va-t-elle remporter un titre majeur? Je dirais même plus, doit-elle remporter un titre majeur? Imaginez si vous avez deux Français numéro 1 de draft coup sur coup. Là, il va y avoir d'énormes attentes sur l'équipe de France. La partie historique, c'est un petit plaisir régulier. Les numéros 1 de draft fiasco. Évidemment, il y en a quelques-uns dans l'histoire, mais on va s'en refaire. Voilà, selon votre inspiration du jour. C'est la partie historique. Le quiz, le thème, vous le voulez?
Oui.
Oui, les vas-y, familles. Bah oui. Les familles basket.
Donc, c'est le jeu de cette famille.
On va peut-être parler des Verov, par exemple.
Bon, j'en doute pas.
Il est avantagé, alors.
Il est avantagé, évidemment. Mais peut-être pas, non plus.
Bon, il n'y aura pas que ça.
On va parler de la famille Brown aussi.
La famille Brown. Il y a plein.
Les
petites russes. La famille Weiss aussi. Alain, Fred.
Ouais, ma soeur est internationale aussi. Hein. Oui. Ma soeur est internationale.
Voilà, il y en a plein des familles de
Alain
basket.
Alain Weiss, c'est son autobiographie, apparemment.
Oui.
Voilà. Ça doit être intéressant.
4 exemplaires vendus. Merci Alain.
Ah ben voilà, essayez la choisie qui a envoyé un scud gratuit.
Le mec a tenté pour balancer un scud
totalement gratuit parce que celui-là il n'a rien à voir avec le thème du podcast.
Rien à voir, c'était gratuit là.
Donc rendez-vous tout à l'heure pour un quiz spécial famille. Mais donc nous démarrons sur ce nouvel ovni du basket français, Zachary Risacher.
Je m'appelle Zachary Risacher. Mon plus grand rêve dans le basket serait d'être drafté en NBA.
Zachary Risacher va pouvoir aller dunker. À demain, tout écrasé.
Flash and finish with the foul from Risacher. Risacher has the freedom of the paint to throw it down. Risacher in behind Jensen from the teenage talent Zachary Risacher.
Worth that. Risacher, three, good.
Risacher open three, bang.
Risacher throws it down. Merci beaucoup.
Alors, Zachary Risacher, c'est le thème du podcast, c'est premier débat, première question. Va-t-il lui aussi conquérir la NBA? Parce qu'évidemment, on n'est pas sur le même phénomène que Victor Wembanyama. Risacher, ce n'est pas une licorne, donc la question mérite d'être posée parce qu'elle est pleine d'incertitudes. Va-t-il conquérir la NBA? Alors, pour l'instant, il est numéro 1 des projections de draft, ce qui ne veut pas dire forcément qu'il sera choisi en premier, hein, contrairement à Victor où il n'y avait aucun doute. L'ailier de Bourg-en-Bresse, en tout cas, fascine par son jeu, son QI basket aussi, son shoot, hein, c'est pour cet ailier longiligne, mon cher Fred.
Exactement.
C'est toi qui m'a briefé avant le podcast.
Bravo.
On va faire le point sur sa saison. Bourg-en-Bresse est troisième à une petite victoire seulement de l'ASVEL. Voilà, c'est la sensation de la Ligue nationale de basket cette année.
Tout à fait. Et tu parlais de Victor Wembanyama. À l'intersaison, Zachary Risacher, il nous a fait une Victor Wembanyama. Il a quitté l'ASVEL pour gagner en temps de jeu. Et là encore, ça semble payer avec la JL Bourg d'un Freddy Fautoux qu'il connaît bien. Il est l'un des joueurs les plus utilisés de l'équipe, que ce soit en championnat ou sur la scène européenne. 23 minutes de moyenne contre 12 l'an passé. Et forcément, bah, ça se ressent au niveau des statistiques. fantastique, 12 points et 3,5 rebonds de moyenne contre 2 points et 1 rebond l'an passé. Ajoutez à cela des pourcentages assez impressionnants, 56% au tir, 56% à 3 points en Eurocup. Zachary est tout simplement le joueur le plus adroit de la compétition, l'un des plus adroits d'Europe. À 18 ans seulement, du haut de ses 2m7, il enquille les matchs à plus de 20 points avec une pointe à 24 contre Nanterre, son record personnel chez les pros. Rizachet impressionne tous les scouts NBA qui se déplacent en nombre pour le voir jouer cette saison. Et consécration de sa belle saison justement dans l'Ain, Rizachet a été nommé joueur du mois de décembre en Betclic Elite avant d'être appelé au All-Star Game. Séquence émotion, il a reçu son maillot des mains de son père, Stéphane, fraîchement nommé légende NBA et qui, LNB, pardon, et qui avait été désigné MVP du match des étoiles il y a 26 ans. Comme tu l'as dit, JL Bourse est derrière Monaco et l'ASVEL en championnat. Ça peut peut-être faire un coup en play-off, mais c'est surtout encore engagé à l'heure où on enregistre ce podcast sur la scène européenne en Eurocup. Ils ont sans doute le match le plus important de leur saison, voire de leur histoire à jouer contre le club ukrainien de Prometei, et ce sera déterminant pour Zachary.
Alors tu parles des scouts NBA, il y a notamment les Chicago Bulls qui s'intéressent à Zachary Rizachet.
Les Spurs aussi ont fait le déplacement déjà.
Les Spurs, très bien, et avant de débattre, on va essayer d'aller un petit peu plus loin sur cet intérêt de la NBA. Lui, en tout cas, ça ne lui fait ni chaud ni froid d'être premier des mock drafts, Zachary Rizachet.
Je prends de la distance, mais comme je suis sur les réseaux, comme n'importe qui, je dirais, bah, c'est devant mes yeux en fait. Et donc oui, je prends le temps de regarder, etc. Mais j'essaye de vite switcher. J'analyse tout en sachant que rien n'est sûr, rien n'est acté et que beaucoup de choses peuvent se passer entre temps. Mais une fois que c'est passé, je suis vite recentré sur ma saison et puis sur la vie en fait qui est réelle et qui est pas derrière un téléphone.
Alors son père Stéphane Rizachet, que tu connais bien Fred, oui, a expliqué tout simplement que depuis ses 15 ans il est observé, scouté c'est peut-être un grand mot, mais observé, donc que finalement c'est pas une vraie nouveauté d'être projeté aussi haut dans les mock drafts. C'est aussi ce qui explique le fait que ça le perturbe pas plus que ça. En revanche, Stéphane explique aussi que dans sa progression, dans sa carrière, cette draft qui arrive va être un vrai tournant, un vrai moment important, voici pourquoi.
J'avais quand même la sensation, en accompagnant Zach depuis son plus jeune âge, qu'il allait être un joueur de grande qualité dans sa catégorie d'âge. Après, le plus important de tout ça, c'est de continuer à progresser et d'atterrir dans l'équipe qui aura les meilleures intentions pour toi. Voilà, des ailiers de 2-7, de 2-8 qui courent, qui shootent, qui contrent, qui ont une bonne vision du jeu, qui défendent, voilà, qui shootent à 3 points, qui savent pénétrer. Bon, c'est quand même quelque chose d'assez singulier. Il n'y en a pas partout.
Alors, ce que je comprends, c'est que selon la franchise qui le choisira, ça peut un peu changer son début de carrière et son évolution, Fred. Est-ce que tu comprends comme moi?
Ben oui, mais c'est assez logique. C'est logique, il faut tomber au bon endroit au bon moment. Donc il faut une équipe qui a envie vraiment de toi, qui a envie de miser sur toi et qui a envie de te faire jouer. Parce que concrètement, c'est encore un projet. C'est encore un projet, Zachary Rizachet. Effectivement, il montre de très belles choses. On est en Europe, il est en Eurocoupe et on sait ce que ça peut donner à un joueur qui joue très bien en Eurocoupe. Kiana, ils en ont un exemple parfait. L'Eurocoupe, c'est bien. Mais ce n'est pas suffisant pour être tout de suite NBA ready. Par contre, ce qui est intéressant, effectivement, c'est tout ce que dit Stéphane. C'est-à-dire que c'est un vrai joueur de basket qui comprend le basket, qui est très grand quand même, 2m7 pour un ailier. On est quand même sur des bases importantes. Alors oui, certains diront, oui, mais si on compare à Wembanyama, on ne peut pas comparer à Wembanyama.
Il ne faut surtout pas faire cette erreur.
Surtout ne pas faire cette erreur, parce que ça n'a rien à voir. On est dans deux sphères complètement différentes. Mais même Stéphane, que j'ai eu au téléphone assez longuement, m'expliquait. Il me dit, Fred, moi, je n'ai jamais la prétention de penser que mon fils est Wembanyama. Par contre, j'ai la prétention de penser que mon fils, bien coaché, bien amené, avec ses qualités de shoot, de jeu et physique, ça peut être un vrai bon joueur.
Bon joueur de NBA, c'est notre question.
Évidemment,
de NBA. 2m7 pour un ailier, c'est très grand. C'est inhabituel.
Non, Franz Wagner à Orlando a un peu ce profil-là aussi.
Oui, mais je veux dire, c'est pas le plus courant.
C'est pas le plus courant. Maintenant, Pierre, ce débat sur Zachary Rizachet, c'est quoi? Est-ce que ça va être un bon joueur NBA ou est-ce que ça va être un bon numéro 1 de draft?
Non, un bon numéro 1 de draft, je pense que c'est ça qui est intéressant. Parce qu'un bon joueur NBA...
Moi, je ne souhaite pas de draft numéro 1.
D'accord.
Je ne lui souhaite pas de draft numéro 1 pour passer juste après Victor Wembanyama dans une draft.
La comparaison, il ne pourra pas l'éviter.
Il pourra pas l'éviter. De deux, quand tu es numéro 1 de draft, il faut se rendre compte des attentes et de la pression que tu as. Numéro 1 de draft, tu es censé arriver dans une franchise où tu as tout de suite énormément de responsabilités et où tu dois performer. Et je ne suis pas sûr qu'à l'heure actuelle, Zachary Zaché soit capable d'arriver en tant que numéro 1 de draft
et faire,
et
par exemple, ce que fait Paulo Banchero.
Ce qu'a fait Paulo Banchero, ce qu'a fait Kate Cunningham, ce qu'a fait Anthony Edwards, ce qu'ont fait tous ces numéro 1 de draft sur les 7-8 dernières années. Je ne suis pas sûr qu'il soit capable de faire ça. Quand Kylian nous dit les scouts NBA sont tous affolés par Zachary Zaché. Moi, hier, j'ai envoyé deux messages à deux scouts NBA qui m'ont répondu avec une note vocale de 4 minutes 30 et qui m'ont dit « Nous, on est sceptiques sur Zachary Zaché, on ne souhaite pas pour lui. Alors, s'il est numéro 1, tant mieux pour sa famille, tant mieux pour lui, tant mieux pour sa carrière, tant mieux pour son banquier aussi. » Mais c'est un cadeau empoisonné. C'est un cadeau empoisonné
T'en as la certitude.
Sur ce que je vois de lui à Bourg-en. Putain, numéro 1 draft, les mecs, vous savez ce que c'est, numéro 1 draft ? T'es le meilleur joueur de ta catégorie d'âge, de ton année de draft, et t'arrives pour changer quasiment le visage d'une franchise.
Ouais, mais Steph, l'avantage, c'est que, effectivement, je suis d'accord avec toi, ça met beaucoup de pression, surtout de passer après Victor. Et moi, ce que je me dis, c'est que c'est pas la draft la plus élevée, c'est pas la draft la plus relevée. Donc, on le comparera à ses pairs, quand même, quelque part. Alors, oui, certains feront la comparaison avec d'autres numéros 1 de draft,
il faudra
comparer à ses pairs aussi. Presque, ça dépend où
tu sais que quand t'es numéro 1 de draft,
numéro 2, ça changerait tout.
Numéro 2, numéro 3, numéro 4, c'est-à-dire que t'as pas les mêmes attentes qu'un numéro 1 et tout ce que tu feras bien, ça sera une bonne surprise. Numéro 1 de draft, si tu fais pas des stats de ouf, tu vas décevoir tout le monde, en fait, quoi que tu fasses quand t'es numéro 1 de draft.
Ça dépend comment tu le vends.
Elle est là, la problématique.
À mon avis, c'est que ça dépend comment tu le vends. Effectivement, si tu arrives en disant il est numéro 1 de draft sans contextualiser, oui, il est vraiment, enfin, concrètement, il serait un peu dans la merde. Mais si vous me passez l'expression. Mais par contre, si tu contextualises, tu dis c'était pas la meilleure draft, par contre, on sait que c'est un prospect, on sait qu'il a ce potentiel pour avancer, etc.
Mais tu peux pas. Ben, tu peux pas cette saison après Victor Wembanyama, tu peux pas contextualiser en disant
c'est ta seule solution.
Tu peux pas dire ça va être moyen alors que tout le monde le sauce parce qu'il surfe sur la hype.
Oui, elle a pas le niveau
mais les Français ont une pression supplémentaire par rapport aux autres draftés de cette draft là.
Si c'est un Américain, il aura la pression aussi parce que justement passer après le numéro 1 français, il aura une
beaucoup de pression. Quand tu es français, tu passes derrière un autre français qui est extrêmement fort.
Je sais pas si tu as une pression supplémentaire. Je suis pas certain.
Après, Fred a raison de le dire. Et les deux scouts NBA m'ont dit la même chose. Dans cette draft-là, pour eux, il n'y a pas une superstar qui va sortir.
Il n'y a pas
un mec qui va marcher sur la NBA dans les 5 ou 10 années à venir. Alors, tu peux forcément tromper. Il y a un mec que tu n'as pas vu.
Nikola
Jokic, personne ne voyait marcher sur la NBA. C'est le cas aujourd'hui, même si c'est un profil de pivot. Mais il faut se rappeler aussi, mis à part Lucas, Victor et Dirk qui sont des spécimens à part, tous les Européens non formés aux États-Unis, non passés par la fac, qui sont draftés très haut, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, il n'y en a pas beaucoup qui ont réussi et qui sont devenus des stars NBA.
Il n'y en a
quasiment pas. Rappelez-vous les Mario Hezonja, 5e de draft, Dragan Bender, 4e de draft, Kylian Hayes, Ousmane Dieng, qui sont 7e et 11e de draft, Yann Vezeli, Andrea Bargnani. Il y a pléthore de noms d'Européens qui arrivent depuis l'Europe, qui sont draftés top 10, qui ne sont pas devenus des superstars. Alors, il y en a qui ont fait des bonnes carrières NBA.
Mais
attention, parce que, et je reviens tout à l'heure, Andrea Bargnani, numéro 1 de draft. Tout le monde dit, c'est un énorme flop. Andrea Bargnani, c'est 15 points de moyenne en carrière. Une saison à plus de 20 points de moyenne à Toronto. Mais pourquoi c'est un flop ?
Mais comme il est numéro 1.
Parce qu'il est numéro 1 de draft.
Oui.
Donc c'est un flop.
Ouais, mais concrètement, Zachary, j'ai l'habitude d'appeler son père Rizak. Zachary fait les mêmes stats que Bargnani. Nous, on saura que c'est quand même une très belle carrière.
On sera content déjà.
Et on sera très content quand même.
Oui, mais tu auras plein de gens qui diront à Zachary Zaché, numéro 1 de draft. Tu sais comment ça marche.
Mais je suis d'accord avec toi.
Nous, on sera content. Hein.
On est dépendant de ce dont on est dépendant. Et on fait ce qu'on peut. Et si, sur cette draft moyenne, le meilleur joueur, c'est Zachary Zaché, il faut qu'il soit numéro 1. C'est comme ça. Merci, je te rejoins. Ça met une énorme pression.
Oui. Donc là, c'est le dilemme, être numéro 1 ou pas. Et selon les franchises, la franchise qui aura le premier choix, ça peut tout changer. Hein. Je pense que
les
Spurs se dirigeront peut-être plus vers un meneur, par exemple.
Peut-être.
Si jamais...
après, les mock drafts vont évoluer, la March Madness va arriver, où là, les mecs de NCAA, sur des matchs à élimination directe, les mecs qui font des cartons et qui vont au bout, vont sûrement gratter des places. Zachary, l'intérêt à être bon, là, parce que déjà, il y a quelques scouts qui ont tiqué sur son match contre Cholet et contre Tijan Salin, où il n'était pas très bon. On commence à regarder un petit peu ses carences. Zachary, il a une vraie carence sur la lecture de jeu. après, sur la qualité de passe. Hein, il a fait un paquet de matchs où il n'y a pas une passe décisive cette saison.
Ça, c'est un vrai problème.
Il y a une vraie carence sur la lecture de jeu, sur la qualité de passe. Zachary, c'est de la course, de la défense, la finition au cercle, du post-up. Il met dedans à 3 points. Mais il faut aussi être capable de faire autre chose. Hein, parce que
après, quand il revenait de blessure, hein, Stéphane, pour son match avec Tidja Tsalon. Hein. Il revenait de blessure et de commotion avec l'équipe de France.
D'accord. Après, mais
quand tu es excuse,
tu es numéro 1 draft, tu vas avoir le ballon en main. Donc il va falloir faire des choses.
Alors, sur quel aspect de son jeu doit-il progresser? La réponse de son père, Stéphane Rizaché, on l'écoute.
Bah, les axes de développement, ils sont de progression, ils sont multiples. Hein. Devenir plus costaud. Ça, souvent, les jeunes joueurs vont très vite dans leurs actions. Et puis, un peu plus tard, il faut apprendre à développer les stop and go, de je m'arrête et je suis capable de repartir en changeant de direction. Un bon baromètre, c'est de se demander, pour des joueurs dans la situation de Zach, se demander où ils en sont vers 23 ans. Quoi.
Alors, vers 23 ans, il donne rendez-vous. Vers 23 ans, pour l'instant, il parle surtout, enfin, en premier lieu, physique et capacité. Alors, quand il dit stop and go, je pense qu'il parle aussi de physique, l'air de rien, de cardio plus, non ? C'est vraiment technique ?
Ouais, c'est un mouvement technique, le stop and go. C'est-à-dire que, en gros,
vu son enchaînement d'idées, je me demandais si c'était pas un peu la même chose, en fait.
C'est deux choses évidemment, différentes. Si physiquement, c'était bien. Ça a un lien, forcément, dans le basket. Si t'es pas au top physiquement, c'est plus compliqué d'enchaîner les mouvements. Mais c'est un vrai geste technique et c'est très intéressant dans le basket moderne. Oui.
Il faut qu'il s'épaississe un peu. Il faut aussi... Putain, la mentalité, il faut qu'il ait la niaque. Parfois, Zach, je le vois finir avec des petits lay-ups et souvent, je lui dis, mec, va mettre des tomards. Va arracher le cercle. Montre-nous que t'es un méchant. Parce que numéro un de draft, t'arrives dans la jungle comme ça, il faut que tu sois méchant. Il faut que tu sois méchant, NBA. Il faut que t'aies du caractère. Il faut que t'hésites pas à que tu sois leader, à parler. Parce que des fois, Zach, t'as l'impression qu'il est bien dans son petit cocon et tout ça. Il faut qu'il se transforme un petit peu. Et Steph, son papa était un peu pareil. C'était...
Surtout au début de sa carrière.
Oui,
après, il s'endurcit. Moi, pour avoir joué à Managa, c'était beaucoup moins.
Mais il faut qu'il soit méchant, Zach, et sur le terrain parfois t'as l'impression que c'est un gentil garçon.
Tu peux pas être
un gentil garçon.
On l'a beaucoup vu ça, même l'été dernier, Coupe du Monde du 19, il a fait une Coupe du Monde qui était coup-ci coup-ça, et franchement dès que ça va pas, on voit qu'il a un body language un peu négatif, il est un peu nonchalant, il est déçu de lui, et forcément il manque de confiance, et il arrive pas à repartir. Je pense qu'il a besoin de prendre confiance en lui aussi, dans ce qu'il fait, et ça marche un peu plus cette saison, mais dans la continuité de la Coupe du Monde de l'été dernier, c'est un peu compliqué pour Zach
Il ressemblerait à quel joueur qui jouerait là en ce moment, ou une référence du basket européen ou américain?
Franz Wagner, c'est le seul que je vois à peu près dans ce profil.
Franz Wagner de Orlando.
D'Orlando, ouais.
Qui a fait surtout une Coupe du Monde de folie.
Exceptionnel, ouais. Et puis qui est bon, très bon Orlando.
Est-ce qu'on ne peut pas le comparer au Nico Batum des années
Portland,
un peu shooter, catch and shoot tout le temps, qui bouge, il se démarque tout le temps.
Il n'a pas la qualité de passe que Nico.
Non, oui, c'est ça.
Il n'a pas la même lecture de jeu, mais en général.
Nico Batum, c'est le joueur qui sait tout faire. Apparemment, c'est pas encore le cas de Zachary.
Non, mais son papa était un joueur très intelligent, qui lisait bien le jeu, etc. Donc je pense qu'il a été à bonne école quand même. Donc je pense que ça devrait progresser rapidement quand même.
Et puis, pour revenir sur un numéro 1 draft, c'est-à-dire qu'il va arriver sur une franchise, on peut se projeter, c'est Détroit, Washington, Portland, Charlotte,
Spurs. Alors, qu'est-ce qui serait bien pour lui?
Ou Memphis.
Je suis en train de saigner des yeux quand tu me dis ça.
Ouais, mais dans toutes ces équipes-là, t'arrives à Memphis, c'est l'équipe de Ja Morant.
De toute façon, dans la NBA actuelle, il y a une star dans chaque équipe,
équipes en fait. Pardon, il y a une vraie interrogation sur ce que va devenir cette franchise de Memphis quand même.
Après Memphis, il n'y a pas que lui. Hein.
Il y a du monde. Il y a des
Jackson, il y a Bane,
Marcus Smart est encore là aussi. Les Spurs, c'est l'équipe de Victor Wembanyama. Charlotte, il y a Brandon Miller qui est quasiment sur le même poste que Zachary et qui est très bon. À Portland, tu as Scoot Anderson, tu as Anfernee Simons qui sont deux arrières qui se goinfrent de ballons.
Qui ne sont pas des gros shooters quand même. Voilà.
À Détroit, tu as Kate Cunningham qui est quand même franchise payeur. Tu as Simone Fontecchio qui est sur son bon poste joueur, et qui est pour moi quand même un petit peu d'avance par rapport à Zachary Zaché.
Mais du coup, ça sera pas forcément un numéro 1.
Tu as Washington qui pour moi est pas inintéressant. Tu as Denis Avdija sur son poste israélien. Tu as Kyle Kuzma mais qui joue plus 4. Tu arrives avec Bilal Koulibaly. C'est presque une franchise de merde. Hein.
Mais c'est ce que tous les cas, ESPN apparemment, Washington. Oui. Donc je pense qu'effectivement, ça peut être hyper intéressant dans ce contexte-là.
D'arriver à Washington.
C'est la capitale.
Pour la qualité de vie, c'est très bien.
Tu peux aller dire bonjour à Joe Biden ou Donald Trump, t'es content.
Franchement, sur le papier, elle n'est pas si dégueu que ça, cette équipe de Washington. Alors oui, ça joue très très mal, mais elle n'est pas si dégueu que ça.
T'as Jordan Poole, qui est sympa.
L'intégration de Poole est affreuse.
Et dès que Jordan Poole sera parti, ça ira mieux.
Parce qu'ils vont le faire partir.
Honnêtement, je ne sais pas comment tu peux le garder.
C'est un mystère, ce mec-là, quand même.
Gros contrat.
En fait, c'est un miracle qu'il ait été si bien réussi à Golden State.
Pas, le pas, contexte est favorable, bah, il a fait un peu de basket, c'est plus facile, le ballon circule bien, il t'amène en bout de chaîne, c'est plus simple.
Quoi. Mais tu vois que quand il a les responsabilités, c'est pas du tout la même chose.
Ça n'a rien à voir aussi comme fonctionnalité.
Bon, donc on l'envoie à Washington.
Dans tous les cas, on l'envoie pour être lieutenant d'une star qui sera en NBA, on l'envoie pas pour être lui la star, on le sait tous.
Ouais, et on en revient à ce qu'on disait au départ. C'est pas Victor Wembanyama, il n'arrive pas pour être le franchise player tout de suite.
Personne, lui, Victor Wembanyama.
C'est un spécial ouais, voilà. Zachary Risacher.
Même là, avec Freddy Fautoux à Gielbourg, c'est pas lui la star de cette équipe,
non,
entre guillemets.
Mais par contre, mais il a énormément de responsabilités. Souvent, dans les moments chauds, on le cherche quand même, et c'est lui qu'on responsabilise.
Après, vous savez qui c'est la star à Bourg-en-Bresse hein.
C'est qui?
David Douillet. Il n'y a pas de blague.
Il habite
à Bourg-en-Bresse.
Ah oui, en fait.
Chérie, me regardez, j'allais chercher le jeu de mots et je ne comprends pas.
Non, ouais, bah, c'est avec toi, on se méfie. Hein. Donc, c'est un spécial Zachary Risacher et nous allons maintenant nous projeter sur l'équipe de France.
Français basket. Allez, allez, allez. Marchons les Ewitz en France.
And then Victor gets the 10th block right there. The triple-double in blocks for Victor Wembanyama.
Zachary Risacher refuses to wave the white flag.
And the left-hand jam by Zachary Risacher.
Make some noise for Alex Saar.
Rebound to Saar, and he throws it back with authority. Alex Saar.
C'est Traoré, going straight to the bucket.
Salah, complètement seul à 3 points.
Salah!
Off Wembanyama, goes right by Durant.
Oh! With the left hand!
Trying to find TJ Salawan. He's only 18 years old. The future of le basket français.
Le basket français.
Alors, cette génération va-t-elle remporter un titre majeur? Deux petites choses avant de démarrer. Cette génération, on va nommer Victor Wembanyama, Zachary Risacher, Bilal Koulibaly, Olivier Sarr, mais une équipe de France, c'est aussi des mélanges hein, de générations.
Alexandre Sarr, non,
Alexandre Sarr, du coup.
Alexandre Sarr, pardon, oui. En plus, ouais.
C'est Geoffrey qui
je viens de faire le point avec mon producteur, bon, c'est pas grave. Alexandre Sarr, évidemment. Mais une équipe de France, c'est plusieurs générations qui se croisent. Donc, évidemment, ils seront aidés par des joueurs qui sont déjà bien en place et puis d'autres qui arriveront plus tard. Un titre majeur, l'équipe de France n'en a qu'un dans son histoire, c'est l'Euro 2013, même s'il y a de très très belles récompenses, les trois médailles d'argent olympiques, 48, 2000, 2020, les deux médailles mondiales, 2014-2019, les neuf médailles européennes. Un titre, c'est autre chose. Hein. Un titre, c'est monter tout en haut et c'est faire retentir la Marseillaise. Alors, est-ce que cette génération-là va nous faire gagner un nouveau titre majeur? On va faire ce débat. Avant ça, on va écouter Zachary Risacher sur l'objectif des JO de Paris.
Ça a été incroyable cette semaine. Porter le maillot bleu, je pense que c'est une semaine que j'oublierai jamais. Et puis même là pour ma première Marseillaise qui a été très, très émouvante. Donc bien sûr c'est dans un coin de ma tête et j'ai pour ambition de tout faire pour pouvoir apparaître dans cette liste. Et je compte bien m'y tenir. Les JO à la maison, ça serait un rêve. Et puis voilà quoi. J'ai hâte de tout donner ces quatre derniers mois pour pouvoir espérer apparaître sur cette liste.
Donc la découverte de l'équipe de France était il y a 15 jours dans une fenêtre internationale. Première chose, est-ce qu'il y sera cet été aux JO, Fred?
C'est très difficile à dire par rapport aux déclarations du staff. On a entendu, hein, normalement, il y a une émulation. Ça va un peu, c'est un peu comme au rugby. Hein, il y a des nouveaux qui arrivent, ils vont se challenger un petit peu et on verra ce qu'il en est. Moi, je souhaite vraiment, parce que ça te permet de gagner de l'expérience. Et concrètement.
Mais est-ce qu'il va apporter quelque chose?
Concrètement, ton 12e homme, est-ce qu'il t'apporte vraiment
là,
quelque chose?
Parce que là, non. Je suis désolé, Fred, tu ne peux pas miser sur la porte d'expérience, etc. Là, c'est les Jeux à Paris, c'est l'objectif ultime.
D'accord.
C'est tout ce que tu as préparé
mais
en amont.
Mais laisse-moi terminer, Pierre, je suis d'accord avec toi.
C'est-à-dire, je veux bien que tu aies dit pour certains autres joueurs, ça va leur faire de l'expérience en vue des JO. Là, ok, pas de problème, ils sont là. Mais aux JO, tu ne prends personne pour faire de l'expérience.
D'accord.
Tu prends que des mecs pour aller sur le podium.
Il faut être responsable de ce qu'on dit. Et ce que je vais te dire, c'est assez simple. Pour moi, le 11 et 12e homme ne sert quasiment à rien. D'accord. Donc, quitte à prendre des mecs 11, 12, il faut des mecs motivés qui vont challenger à l'entraînement, qui vont faire
là,
le taf.
Je suis pas d'accord avec toi.
Ben, honnêtement, on verra combien de temps ils jouent.
Parce que sur ces postes d'extérieur, quand même, tu as quand même beaucoup de joueurs en balance qui ont une certaine expérience, qui peuvent t'apporter quelque chose. Il faut faire les bons choix, là. Faut pas,
mais il faut faire les bons choix. Je pense que
si tu as des blessures, je sais pas,
moi,
il faut des mecs prêts.
À 12.
C'était qui les mecs en 2000 qui servaient à rien, Fred?
En 2000, c'était Gadou. Franchement, Thierry, il a quasiment pas joué de toute la compétition. Et bah, je sais pas, c'est un petit peu difficile parce qu'effectivement, on a eu un blessé. Et Moussonko, par exemple. Oui, non, mais j'entends, mais j'ai envie de te répondre. Moussonko, il a quasiment pas joué, il a été blessé aussi très rapidement.
Alors, est-ce qu'il y sera?
Pour revenir sur Zachary Zaché, il y a un truc à prendre en compte, c'est que la draft cette année, c'est le 26 et le 27 juin 2024. Et que la préparation de l'équipe de France pour les Jeux Olympiques démarre le 17 juin d'un stage à l'INSEP. Donc ça veut dire que ce garçon, avec la draft, il ne va pas être là sur le début de la préparation.
Donc est-ce si on s'en tient,
est-ce qu'aujourd'hui on peut se permettre
à la jurisprudence Marine Johannes, il n'est pas là.
Il ne sera pas là.
Par exemple.
Déjà, est-ce qu'on peut se permettre de se dire qu'un garçon ne va pas être là les 10-15 premiers jours de la draft et ensuite le récupérer alors qu'il est néophyte en équipe de France qu'il y a des ambitions. Ensuite, rappelez-vous le dernier premier choix de draft français, la compétition d'après, est-ce qu'il était là?
Victor
Wembanyama, il n'était pas là.
Il a les mêmes agents?
Non, il a Doug Neustadt, qui était l'agent de Boris Diaw, qui est un Américain. Zachary Zaché. Donc moi, je pense que Zachary ne sera pas là avec l'équipe de France. De par son truc de draft, et de par partout, sa précocité sur le jeu, son expérience, je pense qu'il y a des garçons qui devraient être là devant lui.
Kylian.
Totalement d'accord. Je pense qu'il sera malheureusement, il ne sera pas là cet été, de par tous les points qui ont été évoqués, et de par le fait qu'il manque d'expérience pour une compétition pareille. Quand on voit les rosters qui vont être envoyés par Team USA ou autre, on ne peut pas se permettre de prendre un petit jeune de 18 ans, aussi bon soit-il, mais avec aussi peu d'expérience.
Alors, là, je trouve dur. Moi, je trouve dur.
Sur ces postes-là, tu prends qui, toi, Fred?
Honnêtement, à l'instant T, je ne prends personne. Non mais vraiment, parce que je suis tout à fait d'accord avec enfin cette volonté de challenger tout le monde, de mettre tout le monde sur le... Et on verra à l'instant T qui sera le plus en forme. Moi j'ai pas envie problème. Pour moi, il y a quelques titulaires irremplaçables, mais tout le reste
donc,
c'est challenger.
Donc Nicolas Batum.
Pour moi Nicolas Batum, Evan Fournier, pour moi il est redevenu titulaire indiscutable.
Et après il te reste combien de postes? Deux ou trois? Enfin combien de places je veux dire?
Ben ça dépend si tu pars à trois meneurs ou pas, ça dépend quelle ton orientation quoi.
Deux derrière Batum et Fournier?
Moi j'aurais dit trois.
Et trois? Est-ce que Rodrigue Bobo est toujours dans la course ou est-ce qu'il s'est éliminé de lui-même?
Ouais, il s'est éliminé. Ouais, il s'est mis une belle dans le pied.
Moi, d'après mes infos, il a dit que pour les Jeux, s'il avait prolongé, validé son option supplémentaire pour Alain Delou, il était candidat pour
venir aux Jeux. Oui, d'accord, il est candidat, mais peut-être qu'ils en ont marre d'attendre après lui aussi, Vincent Collet et son staff, non?
Ça fait quand même 8 ans qu'il lui court après et ils sont encore là. Donc je me dis, ils peuvent attendre
encore. La dernière fois, il s'est tiré une balle dans le pied.
Moi je suis assez d'accord là. Là, je pense que. Même si on aimerait le voir là-bas, parce que c'est un genre
qui sont les autres candidats pour le coup?
Isaiah Cordinier, Timothée Lewu Cabarro.
Alors Cordinier qui a une grosse cote, donc qui a quand même une forte chance d'y être. Timothée, ça dépend des semaines.
Ou t'es pas à l'abri qu'au stage Ousmane Dieng soit là sur un poste 3 aussi pour le découvrir.
Exactement.
Voilà.
Alors on a fait le tour sur les JO. Maintenant, si on se projette un peu plus loin, est-ce que vous avez envie de rêver avec cette génération? Est-ce que vous avez l'impression qu'on va avoir une équipe pour gagner un titre majeur?
Moi j'ai peur. J'ai peur parce que sur le talent, on l'a dit, hein, le talent est là, on a un talent incroyable, on risque d'avoir une équipe fantastique, sauf à un poste, au poste
meneur.
De meneur.
Meneur,
et c'est là qu'on se dit que cette formation française, elle est très bonne, elle est fantastique pour former tout le monde, sauf des meneurs. Parce qu'on choisit les qualités athlétiques, on choisit une taille et on ne choisit pas forcément le niveau ou le potentiel autre que physique. Et moi, ça me pose un vrai problème. Je sais qu'il y a plein de gens qui passent sous les radars et tu te poses la question de savoir, est-ce que on va enfin se dire, oui, il y a le potentiel physique d'un côté, mais il n'y a pas que ça, il y a aussi le QI basket, et j'ai l'impression que le QI basket n'est pas suffisamment choisi ou valorisé en tous les cas dans les équipes de France de jeunes. Par rapport aux Espagnols,
Quand tu vois que les Espagnols sont champions d'Europe et nous détruisent avec... comme il s'appelle ce petit meneur rouquin là, qui joue à Malaga, là,
Diaz. Bref,
Diaz, voilà, avec un petit meneur. Il joue en Betclic, Diaz. Je suis même pas sûr qu'il finisse la saison.
Enfin, il naturalise quand même Lorenzo Brown.
D'accord. Enfin, c'est quand même Diaz qui joue meneur de jeu, qui met des pressions tout terrain, et qui t'as envie de donner 50 centimes si tu le croises là en bas de RMC. Et t'as plein de meneurs de jeu en Espagne comme ça, de ce style-là, qui ont des petits physiques, des petits gabarits, mais qui sont des vrais cerveaux.
Tu peux pas gagner une grande compétition sans un grand meneur, ça n'existe pas ça?
Non, c'est dur. C'est quand même très très dur. Faut surcompenser ailleurs quoi.
Tu peux dire que Wembanyama, tu surcompenses déjà pas mal.
Ouais, mais à un moment, le talent, il faut le fournir. Et si t'as pas un meneur qui amène le ballon où il faut à chaque fois, tu le fournis pas.
Après, on a beaucoup d'espoir sur le petit Nolan Traoré qui a 17 ans, qui a 16 points, 5 rebonds, 4 passes en 3ème division avec des hommes alors qu'il a à peine 17 ans. Maintenant, à 17 ans, tu sais pas de quoi son futur sera fait. Il est courtisé par le championnat de France, par l'Australie, par la NCAA, tu sais pas où il va aller. Après,
c'est trop tôt, 17 ans.
Oui, c'est trop tôt. Après, tous les garçons qu'on a cités, c'est les garçons qui sont amenés à jouer en NBA. Et moi, une équipe de France dans 5-6 ans composée quasiment que des joueurs NBA, j'ai mis des gros doutes.
Oui, mais tu auras toujours des mecs en Europe aussi qui cartonneront. Bah
de toute façon, profil, moins en moins de joueurs en NBA en ce moment.
Profil Vincent Poirier ou Guerchoni Abouzélé, tu en auras toujours.
5-6 ans.
Oui, pas celui-là. Ah, ce genre de joueurs qui sont un peu limités pour, la NBA, mais qui font des grosses carrières en Europe.
Il faut un alliage des deux.
Mais c'est quand même des mecs qui ont été formés en Europe. Pour la plupart. Alors, Sarr, c'est un mauvais exemple parce que lui, il a une formation un peu particulière, mais c'est quand même des mecs qui ont cette culture FIBA, qui sont formés en Europe. Et je pense que quelque part, ça s'oublie pas. Moi, je pense à Frank Ntilikina qui performe pas du tout, qui a pas du tout performé en NBA, mais quand il venait en compétition internationale, avait quand même ce truc du jeu FIBA.
Après, on a vu des garçons être les meilleurs joueurs NBA. Je pense à Giannis Antetokounmpo, je pense à Nikola Jokic revenir jouer avec la Serbie, avec les Grecs et ne pas gagner, alors que c'était des joueurs sur les compétitions qui roulaient sur la compétition. Sauf que autour, ça marche pas, c'est compliqué de jouer tout sur un mec et c'est pas suffisant.
La première
compétition de Giannis, elle est
plus bonne que ça.
Elle est cata. L'Eurobasket, ils se font sortir. C'est pas suffisant d'avoir un mec sur le toit du monde. Et, là, et quand je te dis ça, je fais la comparaison avec Victor Wembanyama qui va être sur le toit du monde.
Qui va être épaulé d'autres joueurs très intéressants quand même. C'est pas...
Non, mais la Serbie, enfin, Jokic est épaulé de joueurs très intéressants.
C'est pas la Serbie, Pierrot. Si on se réfère
aux autres équipes de France, est-ce qu'il n'y a pas un potentiel qui est égal à 2013, par exemple, Kylian? Je parle de potentiel parce que de toute façon on peut pas faire
je comprends et je suis d'accord avec l'argument du meneur, mais je trouve qu'on a quand même une génération à venir qui est exceptionnelle. On l'a vu cet été avec toutes les équipes jeunes qui ont performé, que ce soit en championnat d'Europe ou en Coupe du Monde. On a des joueurs qui sont encore intégrés là, la dernière fenêtre internationale comme Strasel, Ify, etc. Ça peut être des meneurs qui peuvent changer quelque chose, je pense, dans cette équipe là.
Ify, tu le vois comme un meneur, toi?
Non, pas un meneur, mais un...
Parce que là, franchement, c'est pas vraiment un meneur.
C'est des bons exemples, voilà. Nadir Ify ou Mathieu Strasel.
Ify, c'est Jordan Clarkson.
Ils auront... Ils auront probablement pas en NBA, en tout cas, c'est pas certain.
Non, c'est pas certain. Après, l'équipe de 2013, Pierrot, Tony Parker est tout là-haut. Nico Batum est un fantastique joueur NBA. Babak est un énorme joueur NBA. T'as des joueurs d'Euroleague, Michael Gelabal, Flo Petrus, qui sont des joueurs d'Euroleague tout là-haut. C'est une vraie équipe, hein, 2013. Oui. Équipe au sens premier du terme. Les mecs, ils sont comme ça. Ils sont là pour un but. Ça fait des années qu'ils galèrent. Donc, il y a cette histoire de cohésion d'équipe.
Victor peut être ce fédérateur. Victor peut, s'il le fait.
Il y aura des égos à gérer, parce que ça sera tous des bons joueurs, des très bons, voire des très bons joueurs. Donc, il va falloir gérer des égos. Et comme là, je suis complètement d'accord avec Stéphane, il va falloir créer une alchimie entre ces égos qui sont sur le papier très forts.
Mathieu Strasel peut pas être ce meneur-là, le meneur de cette équipe-là.
Moi, j'aime bien Mathieu. Après, attention aux Espagnols. Hein. Les Espagnols, ils ont encore une génération. On parle de nos pépites, mais ils ont des pépites. Hein. Almansa, Adaimara, ils ont Baba Miller, ils ont le petit de Doul, mais qui joue avec. Nunez. Ils ont un paquet de joueurs. Ils vont nous faire chier toute notre vie.
Baba Miller, il joue pas à Rome.
Baba Miller, non, il joue pas à Rome, il joue à la fac, il joue à Florida State, Baba Miller.
Tu l'adores.
Il adore Cyril Hanouna.
Oui, exactement. Ça ne rate pas une émission. Très bien. Donc, on est sceptique du côté de Fred et de Steve, plus enthousiaste pour Kylian.
Bah, j'ai envie d'y croire à cette génération. Quand on voit les noms sur le papier, ça donne envie d'y croire, malheureusement.
Bilal Koulibaly peut devenir un joueur majeur de l'équipe de France. La progression, elle est très intéressante dès la première année.
Sur le papier, moi, je trouve ça hyper intéressant. Sauf que je me dis, il faut que ça joue ensemble. Il faut que quelqu'un joue en
problème. Et après, il y aura toujours des anciens qui vont les prendre.
Les Espagnols, on va les défendre avec tout ce matos-là. Ça va être dur de nous mettre des puntos.
Ils nous ont mangé cet été.
Après,
hein,
c'est
donc
toujours compliqué de se projeter sur des gamins de 16, 17, 18 ans, sur ce qu'on va être futur.
Le potentiel est fou, mais il faut l'accomplir, son potentiel.
C'est un spécial Zachary Rizaché. Et voici la partie historique de Basket Time.
While some number one picks have gone to become all-time great players, there are others that fell way short of expectations and faded into obscurity shortly after.
Cleveland Trailblazers select Greg Oden from Ohio State University.
Greg Oden was supposed to be the next Shaq. Fortunately, those times were very short.
The Golden State Warriors drafted University of Maryland forward Joe Smith first overall. In 1998, the Los Angeles Clippers selected 7-footer Michael Olowokandi.
The Washington Wizards select Kwame Brown.
Cleveland Cavaliers select Anthony Bennett of Toronto, Canada.
4 years after he got selected first overall, he was already out of the league.
Alors on s'est fait un petit plaisir, hein, parce que c'est toujours rigolo de regarder ça, les gros flops... des numéros 1 de draft.
T'es un sadique, Pierre, en fait.
Les plus récents, hein, c'est ce que je vous ai demandé de regarder, les plus récents. Mais finalement, il n'y en a pas tant que ça. Hein. Il y a des noms incroyables dans ces numéros 1 de draft. Alors, enfin, c'est vous qui allez revisiter un peu l'histoire récente des numéros 1. Mais tout de même, hein, si on se réfère aux dernières années, Wembanyama, Banquero, Cunningham, Zion Williamson, Anthony Edwards, même DeAndre Ayton, on peut pas dire que ce soit un flop. Carl Anthony Towns, tout ça, c'est magnifique.
Tu vois DeAndre Ayton, par exemple.
Ce sera un flop parce que numéro 1 n'est pas terrible.
Et t'as l'impression qu'il est joueur. Regarde, qu'il a quasiment double-double de moyenne
en
carrière.
Mais
parce que numéro 1 draft, t'as l'impression que t'es déçu.
C'est pas le crash de Kwame Brown.
Non, ça n'a rien à voir. On n'est pas là. Après, DeAndre Ayton, il paye aussi d'être numéro 1 draft, alors que t'as Luka Doncic qui est dans sa draft. Il paye ça aussi.
Et ça, c'est des histoires, évidemment, qui sont faciles à raconter après coup. C'est justement ce qu'on va faire tout de suite. Kylian, c'est toi qui commence.
Ouais, j'ai choisi Anthony Bennett, first pick en 2013. Et bah, figurez-vous que j'ai été incapable de trouver où est-ce qu'il joue cette saison. J'en ai aucune idée. L'année dernière, il jouait pour les Hsinchu Toplus Lioneers, un club taïwanais. First pick en 2013, donc.
Tu connais pas cette équipe?
Tu connais? Non, cette draft en 2013, plutôt faiblarde encore une fois, comme celle qui nous attend en 2024, si on oublie un certain Giannis Antetokounmpo. Mais les Cavaliers ont pris la décision de sélectionner Anthony Bennett. Après avoir bondi de son siège, casquette des Cavaliers sur la tête, le colosse canadien de 20 ans donne sa première impression au micro. Rappelez-vous, à ce moment-là, il est le tout premier Canadien à être sélectionné en première position. Et je vous propose de l'écouter. En connaissant la carrière du Loustic, ça vaut vraiment le détour. Et la manière dont la question est posée est tout aussi sublime.
Jabbar, Magic, LeBron, Bennett. How's that sound?
Sounds pretty good, man. I mean, you know, being the number one pick has a lot of name to it, but you know, I just feel like it's the game of basketball. So I'm gonna call here. You know, work hard, encourage my teammates, you know, and just do what I can.
C'est abominable ce que tu viens de faire parce qu'il n'est pas responsable de la question.
Non, pas du tout, mais c'est pour ça que j'ai précisé que la question était très bien. Après coup, on s'amuse, voilà.
Bennett. C'est Julien, Bennett.
Jabbar, Magic, LeBron, Bennett, mon nom sera pour toujours associé à tous les grands noms sélectionnés en numéro 1. C'est un véritable honneur, oui, d'accord. Sauf qu'après, Anthony Bennett, c'est 0 sur 15 au tir après ses 4 premiers matchs, seulement 11 points après ses 8 premiers matchs. Bref, tout laissait présager le pire et ça n'a pas manqué. Les Cavs l'échangent aux Wolves, qui l'envoient aux Raptors, qui le lèguent aux Nets, sans succès. Total manque de confiance, incapable de marquer, très faible défensivement, un manque cruel de talent. 4 fois starter sur 151 matchs joués en 4 saisons. Bennett affiche des moyennes en carrière faméliques pour un premier choix de draft. 4,4 points, 3,1 rebonds et 0,5 passes. Parti en Europe depuis, que ce soit au Fener ou à l'Hapoël Jérusalem, il n'est pas parvenu à relancer sa carrière. Espérons que là où il est aujourd'hui, il puisse s'épanouir plus que dans ce costume de first pick.
Là, c'est le vrai raté, parce que le mec, nulle part, il n'a pas performé. Non, il n'est pas encore mort. C'est le vrai raté. C'est-à-dire qu'ils sont passés complètement au travers. Le mec n'était pas capable, n'avait pas le niveau.
Non, mais il avait beaucoup d'envie, mais très peu de talent.
Juste un truc
talent.
dans l'illustration qu'on a entendue avant de démarrer, il y a une sorte de... Il y a une clameur bizarre au moment de l'annonce de son nom, comme si la moitié de la salle était effarée.
Il s'attendait vraiment pas à ce que ce soit lui. C'était une draft vraiment faible. On savait pas vraiment qui allait ressortir. Et quand les Cavs ont appris que c'était Anthony Bennett, c'était un petit peu l'effroi, à part dans son clan à lui où c'était la joie. Sinon, c'était vraiment pas.
Alors, Fred, de qui vas-tu nous parler?
Moi, je vais parler d'un joueur qui s'appelle Michael Olowokandi, qui a été drafté en 98, donc premier de la draft. C'est un joueur qui n'avait que 50 baskets dans les pattes, hein, quand on l'a drafté du côté des Clippers. Et quand même, c'est une belle bête, hein. 2m13, 122 kilos, c'est quand même un animal physique, c'est quelqu'un qui peut faire plein de choses, mais il faut se rappeler quand même de son début de carrière, qui a été très compliqué, parce que quand il est drafté en 98, c'est le lockout en NBA. Donc c'est-à-dire qu'au lieu de commencer en NBA directement, il va commencer le 5 février. Entre-temps, il fera un petit passage éclair au Kinder Bologne avec le roi Rigaudeau, qui dira de lui... Je ne sais pas pourquoi on a pris ce joueur, parce que franchement, en gros, il ne sert à rien. D'accord. Donc, règle pour jouer en Italie. Et je crois que j'ai même pas trouvé beaucoup de statistiques. J'ai vu que 3 matchs joués avec le Kinder, mais en Liga. Je n'ai pas vu de match Euroleague.
Alors, j'imagine qu'il y en a. Il a bouffé des Kinder, je pense.
Bah, oui, je pense. Donc, imagine, tu commences une saison compliquée avec un lockout. Tu commences le 5 février, mais pas pour cause de blessure, juste parce qu'il y a des accords qui doivent être trouvés. Et tu commences cette saison. Saison qui sera très compliquée pour lui. Hein. Il va tourner à 9 points, 8 rebonds, 1,2 bloc. Alors, ce n'est pas affreux sur 45 matchs, mais premier de la draft. On l'a dit, Stephen le disait tout à l'heure, ce n'est pas pareil. Quand tu es premier de la draft, il faut quand même se rappeler que dans cette draft, il y avait Carter, Pierce et
Dirk.
Et Dirk, évidemment. Donc forcément, bah, ça a pesé beaucoup sur ses épaules. On l'a beaucoup critiqué. Il a fait 7 saisons en NBA. 500 matchs, il a fait. Donc il a 8 points, presque 7 rebonds. Mais voilà, jamais le joueur qu'il aurait dû être. Il s'est arrêté comme ça au bout de 7 saisons entre les Clippers, Minnesota et Boston. Il n'a jamais explosé. Ça a été un joueur moyen. Et juste petite anecdote, quand il est aux Clippers, on demande à qui de venir le former en tant que pivot.
À
Jabbar. Alors c'est juste à côté.
On en a parlé il y a 15 jours.
On est les Lakers à côté, mais bon, les Clippers c'est au même endroit. Donc on demande à Jabbar. Sauf qu'il lui dit tu me gonfles en fait, ça m'intéresse pas trop ce que tu me dis. J'ai pas vraiment envie de travailler avec toi. Donc il le rejette comme ça. Et voilà comment il a fait sa carrière, c'est-à-dire qu'en ne progressant jamais.
Michael Olowokandi.
Olowokandi.
98, tu vas nous emmener en quelle année toi, Steve?
Moi je vous emmène en 1989.
Alors, 1989, oui, c'est Purvis Ellison, jamais entendu parler.
Voilà, j'avais envie de choisir un nom un petit peu inconnu au bataillon, plutôt que de faire ce bon Andrea Bargnani. On a déjà assez tapé sur l'italien et on a aussi beaucoup tapé sur Greg Oden. Donc
Purvis Ellison.
Purvis Ellison, qui est champion NCAA avec Louisville en 1986 et meilleur joueur du Final Four NCAA, carrière universitaire exceptionnelle, drafté en première position en 1989 par les Kings de Sacramento. Et Danny Henge, son coéquipier à Boston, à la suite de sa carrière, l'a très vite surnommé Out of Service Purvis.
Wow. Ouais. C'est un très joli prénom.
Parce que sa carrière à Purvis, elle est sponsorisée par la Croix-Rouge. sa saison rookie, il joue 42 matchs à cause de son genou et il est tradé après un an seulement du côté de Washington, les Bullets à l'époque, où il va jouer la seule bonne saison de sa carrière en 91-92. Il va être élu MOP, meilleure progression de la saison, avec 20 points et 11 rebonds. Voilà. Merci Purvis pour cette saison. On te souhaite une belle retraite, puisqu'après il sera transféré à Boston, où il va jouer 69 matchs sur les 246 possibles. Fin de carrière pour Purvis Ellison. Comme beaucoup de monde, son corps l'a abandonné. Il aura juste laissé un souvenir impérissable à Louisville, où il verra son numéro 2. Numéro 42 retiré. Voilà, Purvis.
Parcours à la Greg Oden, un peu, non?
Ouais, même s'il a un climax, une saison où il est élu meilleur progressiste.
Parce que Oden, c'est pas le même échec que Bennett. C'était un vrai joueur, mais il ne pouvait pas jouer.
Physique terminé.
Il
ne
pouvait pas jouer parce que c'est son corps là.
C'est un what if. Lui, c'est un what if.
Je pense que quand tu es directeur d'une franchise, tu as moins de
regrets
sur un Oden que sur un Bennett, quand même.
Bennett qui a gagné l'Euroleague, quand même, en 2017.
Bennett qui a gagné l'Euroleague avec le Fener, sans faire grand chose, non?
Non, costume.
Oui, il jouait costume.
Il jouait pas. Mais bon, Courtsaille quand même.
Bon, lui, c'est vraiment le raté, quoi. Le raté.
Anthony Bennett.
Il y a même pas de regret à avoir parce qu'il pouvait pas, quoi. Nous allons terminer avec le quiz, messieurs, dames.
Il n'y a pas de Tariq Abdulwahad. On s'est fait deux éléments majeurs en moins. Et c'est vrai que c'est. Excusez-moi, je suis vraiment désolé. Allô? Oui? Attends chérie, je suis en train de répondre à une interview, je te laisse.
Et si c'était ça le principal danger pour les Bleus? Un trop plein de sollicitations avant l'Euro?
Je suis vraiment désolé. Hein.
Il n'y a rien qui va dans cette séquence. Hein. Parce que toi, donc, tu réponds, merci, tu Fred. Juste par déjà, pure provoque.
À l'époque, non, je comprends pas par provoque.
Et le commentaire du mec, c'est pas un trop plein de sollicitations quand ta nana t'appelle.
Ben voilà, ça n'a rien à voir.
Mais en fait, tu sais, c'est quoi la vraie histoire? Je pense que c'était le seul à avoir un téléphone portable. Oui, et quand il a sonné, il a dit allez, je le sors.
Regardez, j'ai été drafté un billet.
C'est quoi? Le pire, c'est que c'est possible. En plus, j'étais un petit con à l'époque.
Toi, t'as dû avoir le bebop, non?
Il a dit à sa femme, appelle-moi à 19h47. Comme ça, je vais l'interview devant tout le monde.
Alors, le thème du quiz, je ne voulais pas donner encore le thème du quiz.
Si, les familles.
Merci, je voulais donner tout à l'heure. Excellent, bravo.
Famille en or.
Famille en or, exactement. Les familles en or, bon, en fait, il y en a tellement que ce n'est pas un vrai indice. Hein. Voilà, c'est juste que ça va tourner autour des familles. Je suis en train de faire mon petit tableau.
On va parler de Steven Adams ou pas?
Kylian, est-ce qu'il y aura une question sur la famille Vérov? On verra.
C'est une bonne blague. Elle est mal amenée, mais c'est une très bonne blague.
Mais c'est pas grave, il n'y a que toi qui l'as entendu.
C'est bien. Pas toujours s'arrêter sur les blagues. Hein.
On va parler de Steven Adams pour les familles.
Oh, oui, bien sûr. Voilà, pas mal, pas si mal, franchement. Hein. Et donc, ok, c'est parti. Alors, première question. Je vous donne les clubs d'un joueur et vous devinez le joueur. C'est très simple.
Mais c'est un lien avec la famille.
Si, si, c'est le thème. Le thème, c'est les familles de basketteurs. Donc, voilà. D'accord. Je vous donne les clubs alors, en remontant le temps. Okay.
Au tout début, donc.
En passant du dernier au premier. Oui. Sergi Pontoise.
Amarassi.
Ex-Maurienne. Gravenchon.
Pierre Parker.
Université de Chicago. Lyle High School, PSG Racing et Mont-Saint-Aignan. Pierre Parker.
Wow. Il y a un club que je ne connaissais même pas dedans.
Gravenchon, c'est à côté, c'est en Seine et en Normandie, je crois. Là, je sais pas, en heure.
Avec Mont-Saint-Aignan, tu l'aurais eu peut-être, Fred.
Non plus.
Non, 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 vraiment. Bon. Pierre Parker.
Seine-Maritime, voilà, c'est ça que
je cherche. Ah, c'est ça. La charade. Ouais. Tout de suite, charade.
Prénom et nom.
Prénom et nom. Mon premier est une spécialité de charcuterie corse issue de la longe de porc. Mon deuxième est une coupe de cheveux rendue célèbre par Mireille Mathieu.
Bol.
Non. Mon tout ne joue pas depuis 2 ans à cause d'une blessure au ménisque du genou gauche.
Lorenzo Ball. L'autre.
Lonzo Ball.
Lonzo Ball.
Lorenzo Ball, toi, tu me dis, toi, je peux pas te l'accorder.
Non, je sais très bien.
Alors que le Lonzo, je pensais que Lonzo, c'était pour
la charcuterie. Je l'avais pas là.
Tu l'as pas? Tu en manges pas du Lonzo?
Non,
c'est bon. C'est bon. Lonzo.
Ah, ouais, je connais le Lomo, mais je connais
le nom de famille d'un pilote de F1.
Je pense que le Lomo, c'est le Lonzo espagnol.
Jérôme Alonso.
Donc, ça fait du coup 2 points pour Steve. Vous lui faites des passes d'ess.
Oui, je lui offre.
Kylian. On enchaîne. Alors, je vous donne des indices.
Oui.
Okay.
Beaucoup d'indices, hein, sur
et vous trouvez le joueur. Vous trouvez le joueur, c'est tout. Ouais. J'ai joué avec Rajon Rondo à Sacramento, Dirk Nowitzki à Dallas, Damien Lillard à Portland,
Bogdanovic, Sabo,
Luka Doncic à Dallas, Joel Embiid à Philadelphie, Kevin Durant au Nets. Mais. Alors là, attention, c'est l'indice qui vous fait trouver. Je vous répète les premiers indices.
Pourquoi tu étais speed comme ça?
J'ai joué avec Rajon Rondo à Sacramento, Dirk Nowitzki à Dallas, Damien Lillard à Portland, Luka Doncic à Dallas, Joel Embiid à Philadelphie, Kevin Durant au Nets. Beau parcours.
Oui, très beau parcours.
Mais je n'ai jamais joué avec mon frère, alors que nous sommes tous les deux en activité depuis 15 ans.
Lopez,
Gasol, Michael Pietruf.
Et nous sommes toujours en activité.
Ah, toujours en activité.
Tous les deux.
Holiday.
Je peux pas vous en dire plus. Hein.
Seth Curry.
Excellent.
Pouah.
Excellent, Fred. Seth Curry. Seth Curry, on dit quoi de Seth Curry?
C'est un bon shooter. Mais c'est pas son frère.
Mais c'est un bon
dur, hein.
C'est un bon shooter. C'est un bon shooter, mais il a pas de truc. Oui.
Est-ce qu'il aurait plus de considération si c'était pas le frère de Stephen Curry?
Je pense un petit peu, forcément. Ah, il y a la comparaison à un moment.
J'ai pas l'impression qu'il y en ait énormément, quand même.
Bah, au début, je pense que ça a dû être dur.
Au début, oui, sans doute. Mais maintenant, j'ai pas l'impression que... Ça lui pèse.
Alors, un point pour Fred. On cherche une famille. Si vous me donnez juste le nom de famille, ça suffira parce que les deux prénoms, ça va être compliqué. Hein. Une famille. Alors, pourquoi cette famille? Parce que le père et le fils, c'est la particularité. Le père et le fils ont affronté Kobe Bryant en match officiel.
Sabonis?
Non, c'est pas cette famille-là. Donc, ça vous situe un peu déjà la période. Le père a fait une carrière médiocre en NBA, donc c'est pas lui qui va vous aider. Quelques piges dans des clubs européens dans les années 2000.
C'est qui le père, ça?
Ouais, le père, Milan et Kim Moscou notamment. Le fils, en revanche, est 4 fois All-Star. Il n'a connu qu'une seule franchise et fait partie des meilleurs shooters. Il est sixième. Non, il est sixième meilleur marqueur par match cette saison. Il est même champion olympique à Tokyo, pour vous donner une idée plus précise.
Je vous l'ai.
Non, à 12 ans, ça, c'est une petite anecdote.
Tes autres
Jalen Brunson.
Que vous connaissez peut-être, toujours pas. Le fils rend visite à son père qui joue à Milan. Et donc, alors qu'il a seulement 12 ans, il fait un 1 contre 1 contre Danilo Gallinari, qui à l'époque a 20 ans. Vous connaissez pas cette anecdote? Non. Eh bien, on continue alors. Il est élevé par sa maman,
sixième meilleur scoreur de la Ligue,
qui est mexicano-portoricaine. Et il se lie d'amitié avec D'Angelo Russell au collège, avant de signer à l'université de Kentucky.
Anthony Davis.
Drafté en 13e position en 2015 par Phoenix.
David Booker.
C'est pour Fred.
On ira tous à la même temps sans
Phoenix. Pour Fred. Devin Booker. Son père a affronté Kobe Bryant en match officiel. Il s'appelle Melvin Booker.
Et puis il y a un autre Devin Booker qui joue en
Euroleague. Oui. Alors là, je ne vous ai pas embrouillé avec l'autre Devin Booker.
Mais d'habitude, c'est ce que tu nous fais.
C'est ce que je fais, oui. Vrai ou faux? Vrai ou faux?
C'est rapide.
On fait un tour. Non, on fait un tour. Une question chacun. Vrai ou faux? Fred.
Oui, mais il faut que tu me poses la question. Le mec, il me regarde. Vrai ou faux?
Vrai ou faux, Fred?
Michael Thompson a un fils qui a joué à Cleveland. C'est vrai ou c'est faux?
J'espère qu'il a plusieurs fils, donc peut-être, oui.
C'est vrai, il s'appelle Michael Thompson.
Michael.
Michael a fait un fils qui s'appelle Michael.
Michael, il a volé l'orange.
Bon, l'autre fils était un plus beau parcours, mais t'es pas tombé dans le piège, bravo. C'est vrai. Steve?
Oui.
Ah, attendez, j'ai un petit truc à gérer avec la régie.
Steve Austin.
Steve.
Astronaute. Un homme tout juste vivant.
Austin Rivers s'appelle Austin Rivers parce que Doc Rivers était fan de la série L'homme qui valait 3 milliards. Austin Rivers s'appelle Austin.
Je comprends la question.
Parce que Doc Rivers est fan de la série L'homme qui valait 3 milliards.
Alors, Steve Austin, c'était l'homme qui valait 3 milliards. Il faut recontextualiser pour les plus jeunes.
Mais attends, t'as vraiment inventé, t'as vraiment inventé un truc de merde.
Toi, ça avait perdu là, non ?
Ça veut dire que t'as demandé à Geoffrey Charpille de
ressortir
l'extrait du générique en posant cette question en disant on va niquer Stephen.
Non, c'est juste pour illustrer de manière musicale, c'est tout.
Ouais, Pierrot, t'es quand même assez tordu, je vais te dire faux.
C'est absolument faux.
J'avoue que t'es hyper tordu quand même.
Austin Rivers, franchement, les Ricains peuvent faire des trucs comme ça, non?
C'était pour la voiture.
Et enfin, Kylian, oui. Penny Hardaway est l'oncle de Tim Hardaway Jr. Je te laisse un instant de réflexion.
Penny Hardaway est l'oncle de Tim Hardaway.
Faux. C'est faux, puisqu'il n'y a aucun lien de parenté entre Tim et Penny Hardaway. Donc bravo, vous avez tous bien répondu à la question. Le point sur le score, 3 points pour Steve et pour Fred, 1 point pour Kylian. Et on continue sur les familles. Alors là, celle-là, attention. On cherche un joueur, tout simplement.
Alors, c'est ce qu'on cherche depuis le début.
C'est mieux, ouais.
Mon fils est double champion NBA. Écoutez bien les indices. Mon fils est double champion NBA avec les Lakers, mais j'ai plus marqué la NBA que lui. Déjà, pour commencer. D'abord, parce que moi aussi, j'ai 2 titres.
Peyton Junior.
Ah non, avec Portland et les Celtics. Mais aussi parce Bill Walton, absolument. J'ai été premier choix de draft, MVP et meilleur sixième homme. Voilà une belle carrière. Hein.
Oui.
74, premier choix de draft, MVP en 77 et meilleur sixième homme en 86. Donc c'est pour Stephen qui reprend la tête dans ce quiz. Nous cherchons une famille. À nous deux, nous cumulons 343 sélections en équipe de France.
Quatre
titres
Boris Diaw,
de champion de France.
Boris Diaw.
Une Coupe des Coupes, 3 Coupes de France en tant que joueur.
Monclar,
bien sûr.
Robert et Jacques.
Titre en tant qu'entraîneur. Bravo Jacques et bravo Robert. Bravo Steve. Et nous allons terminer avec une question qui n'a aucun sens.
C'est bien de le dire. Ouais.
C'est logique. Lamelo, Lonzo, Manute ou Bol ? Ils ont le même nom de famille, mais ils sont pas du tout de la même famille.
En plus, t'as 4 possibilités et ça peut être les 4 ou non.
Et je vous ai épargné Liangelo. Voilà.
Ah, merci.
Parce que là,
c'est Paul Bol, Manute, Lonzo ou Lamelo.
Voilà. Et toutes les combinaisons sont possibles. Wow. Tous, aucun, ou
Manute
et Lonzo, Lamelo et
Lonzo.
Ah
oui, ok, d'accord.
Ok.
Il est fier de ça, de sa connerie.
Fred.
Oh, merde.
Allez.
Alors, concentre-toi bien. J'ai joué en Europe. J'ai joué en Europe. Voilà. Tu réponds à la question.
Aucun.
Lamelo a joué en Lituanie.
Ah oui, mais oui.
Ouais.
Voilà. Steve.
Je suis nul.
J'ai été drafté par les Hornets.
Hein ?
J'ai été drafté par les Hornets. Réfléchis bien.
Ok. Lamelo a été drafté par les Hornets. Manute Bol, non. Bol Bol. Pas drafté par Denver, lui. Je veux dire Lamelo.
C'est une bonne réponse. C'est excellent. Kylian, j'ai joué dans au moins 3 franchises de NBA différentes. Réfléchis, toi.
C'est encore
tu peux réfléchir. Enfin, pas être ridicule parce que tu n'as qu'un point pour l'instant.
Non, bah écoute.
Alors, réponse, non.
C'est je vais dire Lonzo. Bol Bol, je suis pas sûr qu'il ait fait 3 franchises.
Alors, ta réponse.
Je vais dire Lonzo.
Lonzo, Manute et Bol Bol. Voilà, donc c'est pas bon.
Oui, okay.
Fred, j'ai été accusé d'espionnage.
D'espionnage ?
Ouais.
Manuté ?
Exactement. Par le gouvernement soudanais et pas par le gouvernement américain. Ouais. Bravo, c'est une bonne réponse. Steve ?
Oui.
J'ai fait de la prison pour vol en Chine.
J'ai fait de la prison pour vol en Chine. Je vais dire Lamelo.
C'est Liangelo, donc la réponse
ah
était
oui,
aucun.
Ah oui, exact. Je savais que c'était un ball.
Je savais que c'était un ball BAL aussi, BA2L.
Et enfin,
de piège.
Et enfin, c'est pour Kylian. Je suis ami avec le rappeur Soulja Boy.
J'ai peur que ce soit un truc qui est tellement extravagant. Je veux dire Bol Bol.
Excellent, bravo. Tu n'es pas tombé dans le piège. C'était pas la famille.
Non, justement, oui.
Bol plutôt. Voilà, on a fini, mais il y a que 2 points d'écart et il y a une question multipoint pour finir. Aux enchères, il y a 2 points à prendre. Hein. Si vous avez les 8 clubs d'Arvidas et Domantas Sabonis. Hein? Les 8 clubs, ils en ont fait 4
cumulé,
chacun.
En cumulé.
Ouais. Est-ce que vous avez les 8, c'est Kylian qui donne la première enchère. Ça va combien ?
3.
Fred ?
5.
Steve ?
6.
Non.
Kylian ? Non. Fred, franchement, vous pouvez trouver les 8. Hein. Surtout toi, Arvidas, quand même. C'est ton gars. C'est ton idole, presque.
Bon, la pression.
Arvidas, si tu... j'en trouve 7. Que 3, là.
Le problème, c'est qu'il est à 5 et pour, il faut qu'il retrouve 2 autres. Parce que moi, je suis à 6.
Non, il
est à
4. Il est à 4, t'es à 6.
Non, des clubs. Il a dit 5 comme enchère.
Non, mais il faut que tu ailles à 8 pour avoir 2 points.
Ouais, mais t'es mignon.
Tu le tentes ou tu le tentes pas Tu le tentes ou tu le tentes pas. C'est tout. Hein. Bah, tente-le. De toute façon, t'as rien à perdre. Alors, tente-le.
Ouais, on va tenter.
Allez, on tente. Vas-y, je t'écoute.
Zalgiris.
Ça fait 1.
Real.
Ça fait 2.
Portland.
Ça fait 3.
Les Kings.
Ça fait 4.
Les Pacers.
Ça fait 5.
Et c'est là que...
c'est là
que ça devient
alors
plus difficile.
T'en as encore de Arvidas, que tu dois peut-être retrouver, je pense.
Valladolid.
Excellent, il est là. Il en manque plus
contre,
que
là,
2.
Je...
C'est vrai que c'est plus dur, là. D'abord, je vais t'aider, il y a un club européen et une franchise NBA. Pour Domantas.
Une autre franchise NBA.
Ouais, alors, où il n'a pas passé beaucoup de temps, mais bon. Même Steve
Lopez.
Excellent, on est à 7, attention.
Non mais là j'ai pas. Hein.
Il te manque un club européen.
Un club européen pour lequel ?
Pour Domantas.
Pour Domantas ?
Oui. Et là tu peux le trouver, peut-être si tu fouilles dans tes souvenirs. Tu l'as Steve ? Steve, tu l'as ?
Non,
Steve,
pas,
il vérifie s'il n'y a pas de la
Steve,
triche
regarde
en régie.
Steve, ah, oui.
Il a 2 doigts de sortir là.
Il t'en manque un.
Je sais pas.
Alors vas-y.
Tente un truc.
Vu ton parcours, tu devrais l'avoir.
Tente un truc.
C'est un club lituanien, j'imagine.
Non.
Espagnol.
J'en dirais pas
Séville.
Plus. Non, c'était
ton
Malaga.
Malaga.
J'étais sûr que tu pouvais les avoir les 8. Et bravo,
Steve. Malaga, ça comptait pas.
Non, c'est les clubs.
Ah, d'accord.
Bravo, Steve, tu as gagné ce quiz. À la semaine prochaine.
RMC Basket Time.